Alors bonjour à toutes et tous, et même si ça fait déjà un petit moment qu'on est là, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue à la fête, qui est loin d'être finie. Alors cela fait maintenant 2 ans et demi que Hollande et le gouvernement mènent une politique au service du patronat, dans la droite ligne du gouvernement précédent. Quand Jean-Pierre Jouyet, ami intime de Hollande, hier ancien ministre de Sarkozy et aujourd'hui secrétaire de l'Élysée, rencontre Fillon, ennemi revendiqué de la politique de Hollande, pour lui demander d'accélérer les procédures contre Sarkozy, il n'y a rien d'étonnant. Tous ces politiciens forment un petit monde, défendant les intérêts des plus riches, au-delà des étiquettes politiques. Un petit monde qui se connaît bien, se fréquente. Rappelez-vous, à la mort de Christophe de Margerie, PDG de Total, c'est presque un hommage national qui a été rendu par les membres du gouvernement. Unis à la droite, les socialistes ont célébré ce soi-disant grand homme, sans qu'aucun ne semble se souvenir qu'il incarnait le pillage des richesses de l'Afrique, la pollution suite au naufrage de l'Erika, l'explosion d'AZF, des milliards de profits annuels sans payer un centime d'euro d'impôt en France, en même temps que des licenciements à l'appel. Qui retrouvait-on aux obsèques ? Le fameux Jean-Pierre Jouyet, qui est aussi cousin de Margerie par son mariage avec une fille Tétinger, la grande famille de la bourgeoisie champenoise dont était issue de Margerie. Tous ces politiciens de droite comme de gauche se côtoient en permanence. Et ce ne sont sûrement pas les valeurs politiques qui les séparent, mais leur carrière, les opportunités qui s'offrent à eux. Alors oui, que ce soit Sarkozy ou Hollande, pour les travailleurs, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Tous prêchent la patience, la résignation face à la crise économique et surtout les sacrifices pour les classes laborieuses. Leur politique se traduit depuis des années par un appauvrissement continu de la population pendant que les plus riches augmentent considérablement leur fortune. En quelques années, le nombre de milliardaires a doublé dans le monde. En France, quand plus de 5 millions de chômeurs sont inscrits à Pôle emploi, les seules familles Bettencourt et Arnault possèdent aujourd'hui autant de richesses que les 20 millions les plus pauvres. On estime que 6 millions de personnes, soit 10% de la population française, subissent une insécurité alimentaire pour raisons financières. Alors quand le gouvernement décide de mesures comme la hausse de la TVA, le gel de certaines prestations sociales ou les hausses de plusieurs pourcents du gaz ou de l'électricité, il sait qu'il va encore aggraver une pauvreté qui monte. Le gouvernement se vante de pratiquer le dialogue social, mais quel dialogue social peut-on pratiquer avec le président du MEDEF ? Gattaz n'est pas un partenaire social, c'est un ennemi de classe qui exige du gouvernement les moyens supplémentaires d'aggraver l'exploitation des travailleurs pour maintenir les profits dans cette période de crise économique. Depuis son arrivée au pouvoir, Hollande ne cesse de se plier à ses exigences. Dès juillet 2012, 20 milliards de cadeaux ont été accordés par le biais du CICE, le Crédit Impôt Compétitivité. L'ANI, l'accord dit de sécurisation de l'emploi, a permis d'imposer plus de flexibilité aux travailleurs. En 2013, la durée de cotisation des retraites a été allongée à 43 années. En juillet dernier, quand le gouvernement a parlé de mettre en place un compte pénibilité, c'est-à-dire la possibilité pour certains travailleurs de partir à la retraite un petit peu plus tôt, ce fut insupportable pour le patronat, alors même que des clauses très contraignantes réduisaient déjà énormément l'accès à cette mesure. Quelle a été la réaction du gouvernement face aux cris de Gattaz ? Non seulement il a repoussé la mise en œuvre du compte pénibilité, mais il a accepté de mettre à l'ordre du jour des négociations les projets du MEDEF demandant plus de liberté sur les temps partiels et la simplification du Code du travail. Et ce n'est jamais assez. Le MEDEF demande aujourd'hui la suppression pure et simple du compte pénibilité. Il vient d'annoncer une semaine de mobilisation nationale en décembre, pouvant aller jusqu'à descendre dans la rue pour exprimer, je cite, « le ras-le-bol et la souffrance des patrons qui estiment ne pas être entendus sur de graves points de blocage que sont le compte pénibilité, la taxation des dividendes ou encore l'information sur les cessions. c'est-à-dire le droit légitime des travailleurs à être informés de tout projet de vente de leur entreprise. Quand le gouvernement réagit à cette arrogance, c'est juste pour pleurnicher. Récemment, la Cour des comptes a pointé 20 à 25 milliards de fraudes patronales. Et on a appris que des dizaines de sociétés françaises ont passé des accords avec le Luxembourg pour échapper à l'impôt. Tout à fait légalement, il est vrai. Rebsamen, ministre du Travail, qui en septembre s'en est pris aux chômeurs, demandant plus de contrôle et des sanctions pour ceux qui ne rechercheraient pas activement un emploi, est resté cette fois bien silencieux. Gattaz proclamait tous les jours qu'il ne sera jamais question pour le patronat d'accepter la moindre contrainte. Alors quand le 4 novembre, Valls a annoncé la mise en place d'un comité de suivi des aides publiques aux entreprises, chargé de vérifier que l'argent versé produit réellement des effets positifs, c'en est presque comique. Par exemple, Marie-Thérèse l'a dit tout à l'heure, on peut se demander ce qu'il jugera des 560 000 euros donnés à Madrange, en même temps que 149 salariés étaient licenciés pour augmenter les dividendes de Madame Pifot. Comme si tout cela ne suffisait pas, Hollande vient d'annoncer qu'à partir de 2017, le CICE serait déduit des cotisations sociales, c'est-à-dire renouvelé indéfiniment. C'est révoltant de voir ces patrons croulant sous les profits en vouloir toujours plus. Il est plus que temps d'arrêter de les enrichir sur le dos de la population et de leur imposer une diète salutaire. Quand ce n'est pas les patrons qu'il faut aider, c'est la dette publique qu'il faut payer. Au nom des économies, des mesures visant le pouvoir d'achat des classes populaires se multiplient. Ainsi, des centaines de milliers de personnes ont eu le choc de recevoir pour la première fois de leur vie un avis d'imposition. Et des centaines de milliers d'autres ont découvert que leur impôt augmentait de plusieurs centaines d'euros. Non pas que leur revenu ait augmenté, mais parce que le gouvernement a décidé d'imposer la part employeur des complémentaires santé et de ne pas revenir sur la décision du gouvernement précédent de supprimer la demi-part fiscale pour les veufs ou les parents isolés ayant élevé un enfant. Alors Hollande se moque vraiment du monde quand il déclare qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire à partir de 2015. Dans le prochain budget de l'État, les nouvelles coupes dans les dépenses publiques se comptent encore en dizaines de milliards. Pour la branche famille de la Sécurité sociale, 700 millions d'euros seront économisés sur les prestations. La majoration mensuelle d'allocations familiales n'interviendra plus aux 14 ans des enfants, mais à leurs 16 ans. L'allocation de naissance sera divisée par 3. Les aides à la garde d'enfants seront abaissées, etc., etc. Pour la branche maladie, plus de 3 milliards d'économies sont attendues. Ordre est donné de rendre les hôpitaux plus efficients et de ne pas dépenser plus, mais faire mieux. C'est-à-dire continuer à diminuer le nombre de lits, le personnel et les dépenses. La chirurgie ambulatoire devient la panacée. Aujourd'hui, la dette publique a dépassé les 2000 milliards d'euros. C'est 95% du PIB, c'est-à-dire 95% de l'ensemble des valeurs produites dans le pays. C'est un véritable nœud coulant qui étrangle les classes populaires pour payer chaque année les dizaines de milliards d'intérêts aux banques. Ce racket de la population doit cesser. Plus de la moitié de la dette provient de la crise de 2008 et du renflouement des banques pour éviter leur faillite. Alors si le gouvernement veut trouver de l'argent pour payer ses dettes, qu'il présente la note à ceux qui en ont profité, à ceux qui ont l'argent, aux banquiers, aux financiers, aux grands industriels responsables de la crise. C'est à eux de payer, pas aux travailleurs, ni aux chômeurs et encore moins aux retraités. Le gouvernement socialiste ne mène pas seulement la politique du patronat. Il en a épousé les discours et les mots. Il est désormais de bon ton dans la gauche gouvernementale de dénoncer le carcan du Code du travail, le verrou des 35 heures ou encore le tabou des allocations chômage. Pour soi-disant relancer l'économie, il faudrait accepter le travail du dimanche, les baisses de RTT, le blocage des salaires, la surcharge de travail, des heures supplémentaires à n'en plus finir. Il faudrait accepter que la précarité soit la règle pour ajuster au mieux les effectifs tout en faisant régner un climat d'incertitude. Dans les grandes entreprises, comme Renault-Flin par exemple, le patronat ne se cache même pas de geler les embauches jusqu'à la mise en place du nouveau contrat de travail, espérant la fin du CDI. L'ensemble de la classe politique, du FN, du PS au FN, affiche le même discours. Par leur propagande, assénée midi et soir, ils apportent leur soutien à la véritable guerre que mène le patronat pour produire plus avec moins de travailleurs. Chacun y va de son couplet sur la compétitivité et la lutte contre la concurrence internationale. Mais le patronat a toujours cherché à diviser les travailleurs, CDI contre CDD, ouvriers contre employés, travailleurs d'origine française contre travailleurs immigrés ou travailleurs contre chômeurs. Les travailleurs conscients doivent affirmer que la compétitivité n'est qu'une arme de plus du patronat pour diviser les travailleurs et surtout amplifier l'exploitation afin d'engranger toujours plus de profits sans que cela ne change rien à la situation de crise économique. Tous ceux qui défendent la compétitivité, la concurrence entre les travailleurs sont des ennemis. Il faut leur opposer la seule issue possible pour les classes populaires, la lutte collective et la solidarité de classe entre les exploités. Aujourd'hui, l'écœurement provoqué par la politique de Hollande s'ajoute à la déception laissée par Mitterrand, puis par Jospin. Voir une nouvelle fois la gauche au pouvoir agir clairement au service de la bourgeoisie a démoralisé un peu plus, découragé nombre de militants des partis réformistes et a fait perdre ses repères à une frange de la population laborieuse. Cela se traduit par une augmentation croissante de l'abstention aux élections, mais aussi une montée inquiétante de l'influence du Front national dans les milieux populaires. Quand des travailleurs se laissent séduire par le « on ne l'a jamais essayé » ou pensent que Marine Le Pen pourrait défendre leurs intérêts, ils se trompent lourdement. Tous ceux qui se prétendent aider les travailleurs, sans vouloir faire payer les capitalistes, sans vouloir s'en prendre au profit, ne sont que des menteurs. Et Marine Le Pen est de ceux-là. Elle ne s'en prendra jamais au capitalisme et veut simplement aller, elle aussi, à la mangeoire. Finalement, elle ne fait que reprendre à son compte les illusions électoralistes que les partis de gauche propagent depuis des années, avec l'idée qu'il suffit de bien voter pour changer son sort. Évidemment, ces illusions électorales sont d'un genre particulier, sont plus dangereuses. Quand Le Pen dénonce les licenciements ou la baisse des allocations familiales, elle le fait toujours avec un relent xénophobe. Et chacune de ces interventions visant à diviser les travailleurs empeste le racisme. Si elle est associée au pouvoir, elle s'en prendrait à coup sûr aux militants ouvriers, aux militants syndicaux et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voudrait relever la tête, s'en prendre au pouvoir patronal ou s'opposer à l'évolution rétrograde de la société. À un travailleur déboussolé ou inconscient qui se tourne vers le Front national, nous disons qu'il va apporter sa voix à un parti qui veut mettre les travailleurs au pas, qui renforce ses pires ennemis. Face à cette montée du Front national, la politique du Parti communiste n'est qu'un vide sidéral. À l'annonce du gouvernement Valls II, Pierre Laurent a fait mine de durcir le ton en clamant que ceux qui refusent ce cap suicidaire doivent entrer en action. Les mots de convergence, rassemblement sont revenus comme des leitmotifs pour former une nouvelle alternative à gauche et gagner des batailles électorales. Avec qui ? Le parti de gauche, bien sûr, mais aussi Europe Écologie Les Verts, passé dans une demi-opposition depuis leur sortie du gouvernement. Et avec les frondeurs, ceux du PS qui font mine de prendre des distances avec le gouvernement, tout en votant tous les sales coups contre les travailleurs ou en s'abstenant, en s'assurant d'abord que cela ne gênera pas vraiment le gouvernement. Ils essaient seulement de ne pas couler avec le navire, préoccupés d'abord de sauver leur poste de député. Alors en prenant une alternative à gauche, Le Parti communiste se place non seulement très loin des préoccupations des travailleurs, mais reprend une politique qui, depuis des décennies, les détourne des combats qu'ils ont à mener. C'est d'autant plus pitoyable de parler de redonner de l'espoir à gauche qu'on peut se demander aujourd'hui ce que signifie le mot « gauche » quand derrière ce mot se regroupe, c'est vrai, une fraction de l'électorat populaire attachée aux valeurs du mouvement ouvrier, mais aussi les ennemis déclarés de la classe ouvrière qui, une fois arrivés au pouvoir, dirigent tous leurs coups contre leurs travailleurs et défendent avec zèle les intérêts des capitalistes en France et dans le monde. Depuis son élection, Hollande joue les va-t-en-guerre, envoyant ses troupes, les troupes au Mali, en Centrafrique, s'engageant dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, sous couvert de lutter contre le terrorisme et la barbarie, quand ce ne sont en réalité que les intérêts des grands groupes capitalistes, du pétrole notamment, qui sont en jeu. Là-bas, cette guerre n'aboutira, comme les précédentes, qu'à accroître encore le chaos en faisant payer le prix fort aux masses pauvres des pays concernés. Ici, en France, les dépenses militaires que cela engendre entraîneront de nouvelles coupes budgétaires qui seront autant de prétextes à de nouveaux sacrifices pour la population laborieuse. Alors les travailleurs n'ont aucun intérêt à soutenir les interventions de l'État français, ni en Afrique, ni au Moyen-Orient, non aux guerres impérialistes. Aujourd'hui, la seule question qui compte, c'est qui est dans le camp des travailleurs et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, ce dont la classe ouvrière a besoin, c'est de la conscience de ses intérêts de classe et de confiance en ses propres forces. Il faut affirmer que ce qui est déterminant pour les travailleurs et pour toute la société, c'est la lutte de classe, le rapport de force entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Ces derniers mois, on a vu toutes les catégories sociales descendre tour à tour dans la rue pour se faire entendre, que ce soit les pharmaciens, les notaires, les huissiers, les entrepreneurs. Et les travailleurs, eux, devraient se taire, devraient se résigner, accepter toujours plus de sacrifices? Non. Ils sont dans leur bon droit en exigeant d'avoir tous droit à un emploi et un salaire qui permettent de vivre. Nous devons affirmer que le chômage n'est pas une fatalité. C'est un choix économique et politique. Il découle du fonctionnement même de ce système économique aberrant, où il est plus rentable de surexploiter des travailleurs et d'imposer à d'autres de végéter au chômage, où la recherche du profit conduit à laisser des millions de travailleurs sur le carreau, alors qu'il y aurait tant à faire pour répondre aux besoins de tous dans le domaine du logement, des transports, de l'éducation ou de la santé. Il faut interdire les licenciements et imposer que le travail soit réparti entre tous les bras disponibles pour ne laisser personne sans travail ni revenu. Face à ceux qui essayent de nous enfumer en disant qu'il n'y a pas d'autre choix que de se serrer la ceinture, il faut exiger d'aller voir les comptes de ces grands patrons qui se posent en victimes de la crise en même temps qu'ils étalent leur opulence et des profits indécents. Ce sont les responsables du chômage, les licencieurs, ceux qui ont l'argent qui doivent payer. Si les patrons n'ont qu'à demander pour être servis, les travailleurs, eux, ne pourront imposer leurs revendications que par la lutte collective. Même en période de prospérité, tous les droits que les travailleurs ont acquis ont été conquis par la lutte. Aujourd'hui, avec la crise, les capitalistes considèrent qu'ils doivent impérativement démolir les conditions d'existence et de travail pour continuer à prospérer. Leurs attaques n'auront pas de limite si les travailleurs ne réagissent pas. C'est pourquoi il est nécessaire d'œuvrer à la construction d'un véritable parti ouvrier qui non seulement met en avant les exigences du monde du travail, mais oppose une politique de classe dans tous les événements, qui affirme qu'il n'y a pas d'autre solution que de changer la société. Un parti dont les militants saisissent toutes les occasions de montrer sa force à la classe ouvrière. Nous sommes persuadés que bien qu'elle apparaisse aujourd'hui affaiblie sous le poids du capitalisme, la classe ouvrière saura un jour retrouver le chemin de la lutte et de la conscience. Ce jour-là, elle se tournera peut-être vers ceux qui ne sont pas résignés, qui ont maintenu le drapeau de la lutte de classe et la perspective d'une société où les principales richesses seraient mises en commun et gérées en fonction de l'intérêt commun. Autrement dit, le drapeau du communisme. Alors oui, camarades, maintenons le drapeau, affirmons que le communisme reste l'avenir du monde. Et avant de poursuivre les festivités, je vous propose de reprendre ensemble le chant des travailleurs, l'Internationale.